Nzamba.
Nzambi la samirana.
Le journal avec Joséphine Jones Mundimana.
Nous sommes samedi 5 février 2022. Vous êtes sur la radio Nzamba Agathe Kakawe. C'est le moment du journal dont voici d'abord les titres. La ministre du Commerce s'est fait doubler par ses subalternes qui ont décidé de la hausse des prix du transport sans l'avoir consulté et vient d'exprimer son mécontentement dans une lettre où elle annule la mesure prise par une commission qui, selon elle, n'en avait pas les prérogatives. Il n'en fallait pas plus pour faire dire à l'Olucom que c'est une preuve de plus qu'il y a des personnes qui gouvernent à la place du gouvernement. Les enseignants semblent ne pas encore être au bout de leur peine après les invectives du chef de l'État. Voilà que des états généraux sur l'éducation sont en train d'être organisés sans qu'ils soient consultés. Le 5 février, c'est la célébration de l'unité nationale, mais selon le mouvement MAP Burundi Buhire, le cœur est loin d'être à la fête parce que le pouvoir d'aujourd'hui ne fait que diviser les Burundais. À toutes et à tous, bonjour, bonsoir et bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Commençons ce journal par ces brèves sur l'insécurité. Une personne a été tuée à la machette sur la colline Gahitse de la commune de Butaganzwa de la province de Kayanza. C'était hier, dans la nuit vers 22h, lorsque des personnes non identifiées se sont introduites dans la maison de Gervais Washingwa, la victime, un sexagénaire. Ils ont dérobé une somme de plus de 500 000 francs, selon des sources sur place. Ailleurs, dans la province de Karusi, sur la colline Muweza de la commune de Wuhiga, la sentinelle d'une boutique a été tuée dans la nuit de ce vendredi à samedi. Ces assassins ont emporté avec eux une somme de plus de 400 000 francs. Et dans la province de Ngozi, un corps sans vie a été découvert ce samedi matin dans la rivière Ngaka, séparant les communes de Mwomba et Ngozi. Le cadavre était ligoté. Les témoins croient que la personne a été tuée ailleurs pour être déposée dans cette localité. La police dit avoir entamé des enquêtes.
Nzamba.
La décision de hausse des prix de transport public prise le 1er février a été annulée par le ministre du Commerce. Selon le ministre, cette mesure a été adoptée par une commission qui n'en avait pas les prérogatives. Il le dit dans une correspondance adressée ce vendredi à cette commission. Le contenu de cette lettre avec Benny Axelakana.
Dans cette correspondance, la ministre du Commerce et du Transport dit être surpris de voir circuler sur les réseaux sociaux une décision de hausse des prix de transport public. Marie-Chantal Nijimbede a ainsi convoqué par la suite les membres de cette commission pour donner toute la lumière relative à cet état de fait. Selon cette correspondance, les explications fournies par la commission ne sont pas du tout convaincantes. Selon toujours la ministre du Commerce, cette décision regorge de nombreuses irrégularités, dont le non-respect de la procédure de convocation d'une réunion, l'absence de concertation avec les autorités hiérarchiques et des autres intervenants dans ce secteur. Cette correspondance indique que cette hausse des prix n'a pas pris en compte tous les paramètres qui entrent en jeu, comme l'état actuel des routes. Cette décision aurait également dû être une proposition à soumettre au ministère du Commerce pour appréciation et décision. Après analyse de toutes ces irrégularités, la ministre du Commerce a annulé cette décision de hausse des prix du transport. Elle recommande aussi à cette commission de refaire une proposition en tenant compte notamment des critères de hausse des prix du carburant. Pour rappel, la commission avait décidé d'augmenter de 25% le prix de transport vers l'intérieur du pays et de 100 francs burundais le prix du transport en mairie de Bujumbura.
Benny Axelakan. Pour l'Observatoire de la lutte contre la corruption et les malversations économiques, cette lettre de la ministre du Commerce est la preuve qu'il y a des gens plus puissants que l'État et qui gouvernent en cachette. Selon Gabriel Luftili, président de l'Olucom, rien ne peut être décidé sans leur aval.
À revenir sur le dysfonctionnement, nous voyons et nous regrettons des directeurs généraux peuvent se réunir et décider sans que l'autorité hiérarchique ne soit pas au courant. Donc, nous craignons que par rapport à ces décisions que le ministre vient d'annuler, risque de tomber à l'eau, de ne pas avoir des résultats escomptés, parce que nous voyons qu'il y a des gens qui gouvernent, mais malheureusement qui ne sont pas visibles. C'est ce que nous constatons parce qu'il y a des décisions qui sont prises mais qui ne sont pas exécutées. Donc, attendons voir et on espère peut-être que les choses pourront avancer normalement. Mais si tel n'est pas le cas, eh bien, ça va être d'ordre d'autres décisions qui ont été prises mais qui n'ont pas été exécutées malheureusement.
Elle réclame d'être associée aux préparatifs de l'Organisation des États généraux de l'éducation prévue en mars prochain. À travers une correspondance adressée au ministre de l'Éducation ce vendredi, la coalition Kosesona des syndicats des enseignants déplore l'exclusion dont ces syndicats sont victimes dans la préparation de cette table ronde. Tenant compte des défis auxquels fait face le secteur de l'éducation, la Kosesona rappelle la nécessité d'associer tous les acteurs concernés pour plus d'efficacité. À ce propos, Ilali Nividi fait remarquer que le gouvernement sous-estime la valeur des enseignants. D'après cet activiste du droit à l'éducation pour tous, ces syndicats constituent pourtant un pilier incontournable dans la réussite du système éducatif. Ils ne peuvent donc pas être réduits au rôle d'observateurs. On écoute Elali Nibidi, activiste du droit à l'éducation pour tous et ancienne leader syndicale.
C'est un retour en arrière. Déjà, pour les différentes rencontres comme celles-là qui ont eu lieu, il y a la table ronde des projectives de 1998, les états généraux de l'éducation de 2014, ont appelé la participation des syndicats d'enseignants à deux titres, comme représentants des enseignants, les enseignants qui doivent être au centre de la mise en œuvre des politiques éducatives et qui ne peuvent pas être exclus dans la préparation des états généraux. Ils ne peuvent pas être exclus alors dans la préparation comme dans la mise en œuvre, comme dans la tenue même des états généraux de l'éducation. Au deuxième titre, les syndicats représentent encore très important, disons, dans les facteurs de réussite du système, mais aussi, ils ont quand même une possibilité de s'exprimer, de faire des analyses, de critiquer et de faire des propositions pour l'amélioration du système. Des critiques que n'importe quel enseignant isolé ne pourrait pas faire. Et c'est pourquoi, alors, je conseillerais au gouvernement du Burundi, au ministère de l'Éducation et au comité de préparation des états généraux de l'éducation qui se tiennent au mois de mars, de se ressaisir et d'appeler les syndicats des enseignants et de leur demander des représentants dans la préparation des états généraux, mais aussi dans le suivi des actes des états généraux de l'éducation. Ce serait une bonne chose par respect du partenaire qu'est le syndicat des enseignants, mais aussi pour montrer qu'ils sont convaincus que les syndicats des enseignants ne peuvent pas être des observateurs.
Pas de réaction de François Habyarimana, ministre de l'Éducation, sur cette grogne de la Kosesona, du moins pour l'instant. Nous l'avons cherché, mais il était injoignable sur son portable.
Pourquoi faut-il se faire vacciner? La vaccination contre la COVID-19 est recommandée par les scientifiques et l'Organisation mondiale de la santé pour trois raisons. La vaccination protège les personnes vulnérables et réduit le nombre de cas graves et de décès. La vaccination diminue le nombre d'hospitalisations et permet de maintenir le bon fonctionnement du système de santé pour tous. La vaccination permet de lutter contre les conséquences sociales et économiques négatives de la pandémie.
Ceci est un message de la radio Inzamba, Agathe Kakao.
Célébration ce mardi 5 février du 31e anniversaire de la Charte de l'Unité Nationale. Les cérémonies ont eu lieu au Monument de l'Unité situé à Vugizo, en mairie de Bujumbura. Daniel Gelas Ndabirabe, président de l'Assemblée Nationale qui a représenté le chef de l'État, a indiqué que sans l'unité des Burundais, le développement du pays est impossible. Le président de l'Assemblée Nationale appelle les réfugiés à rentrer pour combattre ensemble la pauvreté, qu'il dit être le seul ennemi du pays. Écoutez.
Les programmes importants que nous entreprenions, en particulier cette année que l'on a dédiée à l'agriculture dans notre pays, si nous ne sommes pas unis, c'est inutile, il n'y aurait pas de développement, on resterait dans des chicaneries interminables. Le développement n'est pas servi, on le cherche. Mais cela aussi est possible lorsque les gens sont libres dans l'unité et la paix. Alors, Burundais, multiplions les programmes de développement. Et un malentendu doit trouver solution par un dialogue et non la force. Étant unis, l'union faisant la force, réfléchissant sur l'unité qui est source de tout bien, il n'y aurait pas de doute que nous serions développés. Son Excellence le Président exhorte une fois de plus les Burundais qui ont fui à l'étranger à retourner dans leur pays, à cesser de commander alors qu'ils sont libres dans leur pays où ils se nourrissent librement. Qu'ils sachent qu'ils ont leur patrie de naissance et qu'ils ne s'arrachent pas l'honneur d'être appelés Burundais et à venir combattre ensemble l'ennemi commun des Burundais qui est la pauvreté.
L'unité nationale est loin d'être pérennisée tant qu'il y a des Burundais qui vivent dans la peur d'être persécutés. C'est ce qu'explique Emery Pacifique Giraneza, président du mouvement MAP Burundi Buhire. Selon lui, en cette journée de la commémoration de la charte de l'unité nationale, même si le discours du président de la République appelle les réfugiés à rentrer pour construire le pays, tant que le parti au pouvoir CNDD-FDD continue de malmener ceux de l'opposition et de diviser pour régner, l'unité nationale est loin d'être proclamée au Burundi. On l'écoute.
Ce que nous constatons, c'est que le CNDD-FDD, le parti au pouvoir, le Burundi, a vraiment mis de côté cette charte de l'unité nationale. C'est comme si ils n'ont pas cette foi en la charte de l'unité nationale. Ils n'ont pas vraiment la volonté d'unifier les Burundais. En fait, ils font le contraire. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est diviser les Burundais à base ethnique ou régionale. Vous savez très bien que maintenant, si vous ne faites pas partie du parti au pouvoir, c'est comme si vous n'êtes pas vraiment digne d'être Burundais. Alors, vous savez aussi que la CVR, c'était Commission Vérité et Réconciliation, vient de publier un rapport là où ils disent que le génocide des Hutus de 1972 est vraiment accepté par cette commission, qu'ils ont fait des recherches et que c'est cela et leur conclusion. Nous savons très bien que, tout d'abord, c'était une maladresse d'approche lorsqu'ils ont proclamer ça. Nous savons tous que les Burundais se sont entretués en 1972 et nous savons très bien qu'il y a aussi d'autres crimes graves avant 1972. Cette précipitation des choses pour conclure sur 1972 avant toute autre période et vraiment pose beaucoup de questions, mais aussi nous savons très bien que c'est une intention du gouvernement pour en fait intensifier cette volonté de diviser les Burundais, de satisfaire les uns et de rendre les autres mécontents. Une politique de diviser pour régner. Nous savons très bien que les membres du parti SNL, par exemple, sont maltraités, sont torturés.
La Coupe d'Afrique des Nations sera clôturée ce dimanche par la finale qui mettra aux prises le Sénégal et l'Égypte. L'Égypte cherche la 8e étoile sur sa tunique pharaonique au moment où le Sénégal court derrière sa première couronne. Le Sénégal pourrait profiter de l'absence de plusieurs joueurs égyptiens pour remporter cette finale. Les détails avec Valérie Mouchou.
La finale tant attendue de cette 33e édition de la CAN opposera le Sénégal à l'Égypte ce dimanche à 21h. Deux sélections parmi les favoris de cette CAN. Pour arriver à cette ultime étape, chaque équipe a livré 5 matchs. L'Égypte n'a perdu que le match contre le Nigeria lors de la phase de groupe. Il a marqué 4 buts et en a encaissé 2. Le Sénégal, quant à lui, n'a perdu aucune rencontre, a marqué 7 buts et en a encaissé 2. Dans l'histoire des confrontations entre les deux pays, ils se sont rencontrés à 12 reprises. L'Égypte a gagné 6 matchs, égalisé à 2 reprises, et a perdu 4 rencontres. Si l'on se réfère aux statistiques, la balance penche légèrement du côté des pharaons. Mais le sélectionneur sénégalais Aliou Cissé pourra se baser sur la bonne dynamique de ses troupes face aux pharaons pour croire à une victoire dans cette finale. Lors des deux dernières rencontres comptant pour les éliminatoires de la CAN 2015, le Sénégal avait remporté par 2 fois. Comme le stipule le règlement de la CAN, les tests Covid effectués 48 heures avant le coup d'envoi se sont avérés tous négatifs. En effet, les pharaons devraient se passer de 5 joueurs, un gardien, un milieu et 3 défenseurs. À noter que Carlos Queiroz, le sélectionneur des pharaons, est également suspendu pour cette finale. Un autre facteur qui pourrait avantager le Sénégal d'Aliou Cissé, qui comptera sur tous ses joueurs. Le Sénégal court encore derrière la première étoile, alors que l'Égypte en compte 7 sur sa tunique. Pendant cette finale, les yeux seront rivés sur Sadio Mané et Mohamed Salah, les deux stars de Liverpool, qui vont s'affronter dans une finale fratricide. Cette finale sera officiée par le Sud-Africain Victor Gomez et 3 Marocains seront à la VAR. Ce samedi aura lieu à 21h la petite finale qui opposera le Cameroun au Burkina Faso. Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, a demandé à ses joueurs d'aller jusqu'au bout pour remporter au moins la médaille de bronze.
Merci Valérie Moumoucho. Le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui se focalise sur les propos d'Evariste Ndayishimiye, selon lesquels le gouvernement du Burundi ne perdra plus aucun procès contre les citoyens puisqu'il est juge et parti. Émile Nivasumba.
Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agathe Kakawe, Radio RPA, Idruya Onyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance.
Il avait tenu des propos pareils vers la fin de l'année 2021. Il a récemment repris les mêmes propos. Selon Evariste Ndayishimiye, personne ne peut gagner un procès contre le gouvernement parce que le gouvernement est en fait juge et parti. Comment les juristes interprètent-ils les propos du président de la République? Quelles sont les conséquences de tels propos? Voilà les questions auxquelles nous allons tenter de trouver des réponses au cours du mini-magazine au cœur de la société de ce 5 février 2022. À la présentation, c'est Émile Nivasumba. L'invincibilité de l'État devant la justice burundaise a été évoquée par Evariste Ndayishimiye lors de sa rencontre avec les jeunes entrepreneurs à Bujumbura le samedi dernier. La rencontre a été tenue alors que les syndicats des enseignants étaient en pourparler avec leur ministère de tutelle qui voulait organiser des tests d'évaluation de niveau, des tests que les enseignants qualifient de dénigrement. Le président de la République mettait alors en garde ses enseignants qui menaçaient de faire grève.
Nous avons des jeunes qui, aujourd'hui, n'ont pas de travail. Nous allons les former nous-mêmes et très vite, et ils vont te remplacer. Et toi, tu vas prendre leur place. Et tu prétends que tu vas porter plainte contre l'État? Qui t'a dit que l'État peut trahir? Tu vas aller en justice et l'État sera en même temps juge et parti. Est-ce qu'il peut se condamner lui-même?
Le président Evariste Ndayishimiye avait tenu des propos similaires dans la conférence publique du 29 décembre dernier. Là, il mettait en garde les sociétés qui n'ont pas construit convenablement les barrages hydroélectriques de Kajeke et Manda. Au micro de nos confrères de la radio Inzamba et de la télévision Renaissance, le juriste Gustave Nyonzima nous donne son interprétation du message du président de la République.
C'est une déclaration indigne, inappropriée et époustouflante. Mais également, cette déclaration manque de véracité juridique et de pertinence politique, étant donné qu'on voit qu'il y a une immixtion du pouvoir exécutif dans le pouvoir judiciaire. Conformément à l'article 93 de la Constitution, le président de la République est le patron du pouvoir exécutif. S'immiscer donc dans des affaires judiciaires en déclarant que l'État ne peut pas avoir une défaite par rapport à un individu justiciable qui a intenté une action en justice contre le dit État nous montre sans embâge qu'il y a une immixtion du pouvoir exécutif dans le pouvoir judiciaire, et ça nous montre aussi que le pouvoir judiciaire est réputé à la sorte du pouvoir exécutif et n'a pas du tout son indépendance. Aussi, cette indépendance est paralysée par le président de la République lui-même. En vertu de l'article 214, alinéa 2, c'est le juge qui peut trancher un litige conformément à la Constitution et à la loi, parce que le juge n'est tenu qu'à la Constitution et à la loi. Aussi, en vertu de l'article 214, alinéa 2, le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Seuls les magistrats peuvent trancher et rendre des jugements et des arrêts conformément à la Constitution et à la loi, conformément à l'article 210. Donc dire que l'État ne peut pas perdre aura toujours gain de cause nous montre qu'il y a l'immixtion du pouvoir exécutif dans le pouvoir judiciaire. C'est vraiment horrible, ça dépasse l'entendement humain.
Selon Maître Gustave Nyonzima, les conséquences de ces propos sont néfastes.
Avec ces propos, on voit qu'il y aura une influence. Les conséquences ultérieures seront que un justiciable ne pourra jamais gagner contre l'État parce que le président de la République lui-même a déjà sensibilisé, incité et influencé les magistrats à commettre l'irréparable. C'est une conséquence très grave. Donc le justiciable n'aura jamais justice s'il est en face de l'État, devant le prétoire du tribunal ou de la cour. Ce justiciable pourra même intenter une action en justice devant les cours et tribunaux internationaux en abandonnant la procédure interne. Aussi, ce justiciable pourra se faire justice. Donc, on va vers l'inconnu, on va vers des choses graves, très abominables. Donc, il n'y aura jamais de justice à l'égard d'un justiciable. Aussi, ce qui est époustouflant, et ce qui est vraiment horrible, c'est la façon dont le président de la République a abominé, travesti et démystifié le corps éminemment judiciaire de la magistrature, alors qu'il devait être le garant. Le statut que lui confère la Constitution d'être le magistrat suprême devait pourtant le guider à garantir l'indépendance de la magistrature au niveau de l'administration des affaires judiciaires. Normalement, le président de la République devait se raviser, se ressaisir en prononçant un autre discours qui va dans le sens de garantir l'indépendance de la justice afin de montrer qu'il n'y a aucune immixtion du pouvoir exécutif dans le pouvoir judiciaire.
Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société de ce 5 février 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Denis Basumba. Au revoir.
C'était l'émission Au cœur de la société.
Terminons par la revue de presse hebdomadaire et vous est livrée par Georges Nimenya.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
Bienvenue chez l'auditrice et auditeur de la radio Inzamba Gata Kawe, SES Média, écrit sur les militaires burundais noyés dans la rivière Rusizi en route vers leurs compatriotes qui combattent en République démocratique du Congo. Selon ce journal, 20 cadavres d'anciens militaires de l'armée burundaise flottant sur les ondes de la rivière Rusizi ont été comptés depuis le 30 janvier 2022. Selon le journal, tous ces militaires ont été noyés alors qu'ils traversaient la rivière pour rejoindre leurs collègues en République démocratique du Congo. 6 ont été noyés la nuit du mardi 1er février de cette année, alors qu'ils traversaient le poste illégal situé à la transversale 6 de la colline Kigazura en commune Rugombo. 9 autres avaient été noyés le dimanche 30 janvier dans les mêmes circonstances à la transversale 6 de la colline Kaburanwa en commune Buganda. Dans cette même commune, mais à la transversale 4 de la commune Nyamitanga, des habitants disent avoir aperçu 5 cadavres en tenue de l'armée burundaise lundi, mardi et mercredi de cette semaine. Toujours dans le même dossier, SOS Média continue en parlant cette fois des habitants qui fuit des combats qui opposent les forces de défense nationale du Burundi au Red Tabara. Des associations de la société civile dans le site Kivu parlent des milliers de déplacés pour la majorité membres de la communauté Bafurero. Ils ont trouvé refuge dans les plateaux d'Uvira au moment où d'autres ont pris la direction des forêts de Rubumba, territoire de Mwega, dans la région de Kaziba. Claude Misale, un membre du Parlement congolais, a arrêté. Il a adressé une lettre au secrétaire général des Nations Unies ce mercredi 2 février, lui dénonçant les violations des droits humains commis par l'armée burundaise en République démocratique du Congo. Quittons le Congo pour parler des réfugiés congolais qui sont sur le sol burundais. Le journal Iwachu relate la situation déplorable que vivent les réfugiés qui sont au nord du Burundi, dans les provinces de Ngozi et Muyinga. Ces réfugiés dénoncent l'insuffisance de vivres, des soins de santé précaires et le manque criant d'enseignants. Le camp de Musasa, en commune Kiremba de la province Ngozi, abrite 8521 réfugiés congolais, dont 88 demandeurs d'asile. Ils disent qu'ils vivent en calvaire suite à l'insuffisance de nourriture et du matériel de première nécessité. Installés au Burundi depuis 14 ans, certains ont demandé un troisième pays d'accueil depuis 2018, mais leur dossier n'avance pas. La situation est la même chez les concitoyens du camp d'Okinama, en province Muyinga. Ils y sont depuis 2002 et sont estimés à 7606. Eux aussi, ils disent que la quantité de nourriture est insuffisante, qu'il manque de nattes, de couvertures et du matériel de chauffage. Terminons cette revue par l'agence burundaise de presse ABP Info, qui écrit sur l'entretien du gouverneur de la province Bubanza et les habitants de la commune Gihanga. Le point à l'ordre du jour était le conflit foncier, le non-respect de la gratuité des scolarités dans certaines écoles fondamentales et l'insuffisance de l'eau potable sont les principales préoccupations des habitants de la commune Gihanga. Concernant les conflits fonciers, ces habitants disent qu'il y a des gens qui vendraient les propriétés plus d'une fois pour entretenir les concubines. D'autres s'attribuent des terres qui ne sont pas les leurs, ce qui crée des problèmes sociaux. Un autre problème est celui du non-respect de la gratuité de scolarité dans les écoles fondamentales où certains responsables scolaires font payer à chaque élève 5000 francs burundais. Cléophas Nizigimana appelle les chefs de services provinciaux à remplir convenablement leurs tâches. Aux administratifs collinaires de ne pas cautionner plusieurs ventes sur une propriété foncière. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par cet élément que nous bouclons cette revue de presse. Vous étiez avec Georges Nimenya, je vous souhaite de passer le meilleur moment là où vous êtes. Au revoir.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
C'est la fin de cette édition. Merci à la rédaction de la radio Inzamba Gatika Kawe pour la production de ce journal. À toutes, à tous, je vous souhaite un agréable week-end. Au revoir.